15 mai 2018, en plein dans le milieu du mois de mai, sous la pluie aujourd'hui, mais ça devrait se tasser, comme on dit. Hélène Denis qui vous accompagne, bienvenue à l'émission Le quotidien des quotidiens. Bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour Hélène.
En forme en ce petit mardi?
Mais bien sûr, et vous?
Oui, ah oui, oui, ça va bien, malgré que j'ai été prise dans des bouchons de circulation. Je ne sais pas ce qui se passait ce matin. Bon, oui, il pleuvait, il y a des travaux partout. Et toutes les rues étaient un peu congestionnées et j'ai failli appeler à la station pour dire par téléphone. Et non, je suis là et très de bonne humeur, malgré
tout. Oui, j'ai remarqué que souvent, quand il y a des congestions routières, tous les chemins parallèles ou les chemins alternatifs sont également bloqués pour des raisons similaires.
Une espèce d'effet domino. Hein?
Exactement. Ouais. On adore.
Oui, alors on va se divertir, j'espère bien, malgré qu'il y a toujours des nouvelles concernant les éphémérides qui sont tristes, mais c'est toujours intéressant, on vous écoute.
Alors tout d'abord, 15 mai, c'est la journée internationale des familles. Et également, c'est la journée internationale de sensibilisation à la méthode kangourou, méthode pour les parents d'enfants prématurés, consiste à tenir son enfant en peau à peau, donc de tenir son petit trésor collé sur soi, sachant qu'un enfant prématuré souvent va avoir besoin d'une plus longue période d'hospitalisation et qui va être en incubateur dans un incubateur, donc ce qui peut briser un peu le lien parental, donc apparemment qu'il y a des bienfaits et pour le lien affectif et pour le développement de l'enfant de favoriser cette méthode kangourou, le pot à pot. Sur ce 15 mai 1536 dans l'histoire, on parle de Anne Boleyn et de son frère Lord Rochford. Anne Boleyn qui était une des très nombreuses femmes d'Henri VIII, Henri le Terrible, le roi d'Angleterre. Anne et son frère Lord Rochford sont déclarés coupables à l'époque d'adultère et d'inceste par la haute cour d'Angleterre. Depuis, il fut prouvé que les deux étaient absolument innocents de ces crimes. En 1659, à Paris, le gouvernement de Mazarin crée le Jardin des Plantes. 1874, une équipe de football de l'Université McGill présente ce sport à Cambridge, au Massachusetts. Je n'ai pas le résultat à savoir après ce premier match, mais je présume que l'équipe qui savait comment jouer a dû remporter ce match.
Oui, peut-être que oui, il y a des bonnes chances.
1889, inauguration de la Tour Eiffel, qui est maintenant ouverte au public. 15 mai 1912, Ottawa modifie les frontières du Manitoba, de l'Ontario et du Québec. Le Québec, lui, double sa superficie et reçoit notamment l'Ungava, qui sera pendant la baie d'Ungava. Et pendant un bon bout de temps, on appellera cette partie le Nouveau-Québec, puisque c'était le Nouveau-Québec. Depuis, les régions ont été redessinées. 1919, la grève générale débute à Winnipeg. Elle fera un mort et durera 41 jours. 15 mai 1924, aux États-Unis, une loi institue des quotas d'immigration selon les nationalités. Quotas qui semble encore en vigueur en 2018. 15 mai 1940, grande date, très grande date, on souligne ça avec un gâteau et des chandelles. Les premiers bonnes nylons sont mis en vente. 1956, à Orléans, près d'Ottawa, un avion s'écrase sur un hospice des Sœurs Grises, tuant 15 personnes. 1957, toujours un 15 mai, le Royaume-Uni fait sauter sa première bombe H sur l'île Christmas, aujourd'hui qui a été renommée en tant qu'île Kiribati, dans le Pacifique. 1958, deux jours après l'insurrection des coloniaux à Alger, Charles de Gaulle se déclare prêt à assumer le pouvoir en France. 15 mai 1991, un premier Québécois, Yves Laforêt, atteint le sommet de l'Everest. En 1998, en Indonésie, le bilan des journées d'émeute dépasse les 500 morts. Et en 2015, M. Pierre-Carl Péladeau change de chapeau et est élu chef du Parti québécois. Lui qui aura, on le sait, une carrière quand même assez courte à titre du chef du Parti québécois. Et sinon, les naissances, Pierre Curie, le physicien français, né le 15 mai 1859. Claude Michaud, l'acteur canadien, né en 1938. Pour ceux de ma génération, Claude Michaud était la voix de Arthur Laroche dans Les Pierres à feu, mais je sais qu'il avait beaucoup d'autres rôles à son actif.
Quel bon acteur! Il a joué beaucoup, beaucoup sur la scène du théâtre Jean Duceppe.
1969, naissance de l'auteur-compositrice-interprète québécoise Ève Cournoyer, qui a disparu en août 2012.
Dans des circonstances tragiques.
Et également, et finalement, 15 mai 1971, l'anniversaire de naissance de l'auteur, compositeur et interprète québécois, M. Fred Fortin.
Ah oui, on l'aime, lui.
On l'aime beaucoup.
Oui. Merci, Jean-Sébastien. À la une de la presse aujourd'hui, exclusivité, enseignement supérieur, Québec serre la vis aux recteurs, divers avantages financiers leur seront retirés et leurs hausses de salaire seront limitées à celles du secteur public. Journée meurtrière à Gaza, plus de 50 Palestiniens tués, quelques 2400 blessés, l'ambassade des États-Unis à Jérusalem a été inaugurée dans le sang hier. Où sont les femmes, entre parenthèses, bis? Quelle allure auraient les affiches des festivals si les noms des hommes en disparaissaient? Allons-y avec la mise à jour de la presse. Plus, les chefs des quatre principaux partis politiques provinciaux du Québec participeront à un débat en anglais pendant la prochaine campagne électorale. Des médias du Québec ont formé un partenariat pour réaliser et produire un tel débat, selon ce qui est annoncé mardi par voie de communiqué. Le débat aura lieu le lundi 17 septembre de 17h30 à 19h à la Maison de Radio-Canada à Montréal. Il sera diffusé sur les ondes de CBC Québec de... ou CBC Québec, de CJAD 800 de City, de City News, City V News, dis-je bien, de Global News et de Montreal Gazette. Les participants seront, c'est vrai, hein, c'est CBC Québec, puisque le débat se fera en anglais, j'imagine que, peut-être que oui, peut-être que non, mais en tout cas, c'est Radio-Canada. Québec, ça devrait être francophone quand même. Alors, on verra bien. Les participants seront le chef du Parti libéral du Québec, Philippe Couillard, le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, celui de la Coalition Avenir Québec, François Legault, et la chef et co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé. Il y a quelques semaines, les quatre chefs avaient fait savoir qu'ils étaient disposés à débattre en anglais. Les détails relatifs au format et aux animateurs suivront à une date ultérieure. Il était déjà prévu que des débats soient présentés en langue française pendant la campagne électorale. Et le prix de l'essence remonte. Le prix au détail de l'essence est revenu mardi à Montréal et à Laval au niveau le plus élevé des dernières années au Québec, 1,48 $ le litre d'ordinaire, comme ce fut le cas au début du mois. Lundi après-midi, plusieurs postes d'essence affichaient un prix inférieur de plus ou moins 14 cents selon ce qu'affiche le site web www.essencequebec.com. Comme d'habitude, aucune des autres régions du Québec n'avait encore emboîté le pas vers 5 heures mardi. Le prix moyen de l'essence ordinaire était évalué pour l'ensemble du Québec à près de 1,34 $. Le prix du baril de pétrole brut a augmenté lundi soir de 26 cents US à la bourse New York Mets à New York à 70,96 $ US. Exclusif à la presse, un autre libéral quitte le navire. Élu sans interruption depuis 25 ans, Geoffrey Kelly ne sollicitera pas de nouveau mandat pour le Parti libéral du Québec. La nouvelle du départ du ministre responsable des Affaires autochtones devait être annoncée dans les deux prochaines semaines. Selon les informations obtenues par la presse, le PLQ souhaite pouvoir annoncer de nouveaux candidats à son conseil général du début de juin. Pour y arriver, les stratèges libéraux souhaitaient pouvoir évacuer la liste des départs avant. Outre M. Kelly, c'est plus connu, Laurent Lessard annoncera aussi sous peu qu'il ne sollicitera pas les électeurs aux élections générales du 1er octobre. Il apparaît aussi clairement que Pierre Paradis, durement éprouvé par une commotion cérébrale et absent de l'Assemblée nationale depuis plus d'un an, ne sollicitera pas non plus un autre mandat. Éric Girard reconnaît qu'il n'aurait pas été totalement farfelu de le voir comme candidat du Parti libéral du Québec, vu ses orientations politiques, mais à l'instar de Marguerite Blais, il affirme que c'est le chef François Legault qui l'a convaincu d'être candidat pour la coalition Avenir Québec. Le trésorier de la Banque nationale a confirmé hier sa candidature pour la CAQ d'Engroux, une circonscription située au nord de Montréal qui regroupe les municipalités de Rosemère, Sainte-Thérèse et Boisbriand. Un investisseur entre guillemets français atteint par balle dans sa décapotable. L'homme atteint d'une balle à la tête hier alors qu'il se trouvait au volant de sa décapotable dans l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie est un investisseur français qui s'est fait beaucoup d'ennemis pendant son séjour au Québec selon ce qu'a appris la presse. Sami Mokadem, 39 ans, était toujours à l'hôpital hier soir dans un état qualifié de critique mais stable. Le citoyen français avait arrêté sa Bentley devant un commerce de cigarettes électroniques rue Bélanger, entre les rues Fabre et Garnier vers 13h30. Il faisait un soleil éclatant et le toit de la voiture était abaissé. Un témoin a raconté avoir vu un homme portant un capuchon s'approcher, coller une arme près de la mâchoire de l'automobiliste, puis tirer un seul coup de feu avant de prendre la fuite à pied. Une arme de poing a d'ailleurs été retrouvée abandonnée sur le trottoir. « J'étais en train de sortir mon recyclage et j'ai entendu un « pow ». Je pensais que c'était un coup de marteau », a raconté à la presse une résidente du coin, Lisette Thériault. Des sources bien informées ont décrit Sami Mokadem comme un dur, tour à tour investisseur, homme d'affaires, prêteur d'argent privé, collecteur de dettes qui se fait parfois accompagner par un entourage intimidant lorsque vient le temps de récupérer de l'argent d'un débiteur. Le nombre d'automobilistes mis à l'amende pour s'être garés dans une voie réservée au transport en commun a augmenté de 11 % en 2017, mais estimant que les contraventions ne suffisent pas, un élu montréalais appelle le service de police de la Ville de Montréal à adopter la ligne dure en multipliant les remorquages afin de libérer le chemin aux autobus. Les agents de stationnement de Montréal ont délivré 6 494 constats à des automobilistes garés dans une voie réservée en 2017, soit bien davantage que les 5 820 distribués l'année précédente. Le SPVM explique cette hausse en disant avoir fait de la lutte contre cette infraction une priorité en raison de son impact sur la fluidité de la circulation, particulièrement en période de pointe. Mais bien que les amendes de 149 $ puissent paraître salées, les contraventions ne sont pas efficaces. Ça fait entrer plus de revenus pour la ville, mais ça n'améliore pas la fluidité, déplore le conseiller municipal Marvin Rautran. L'élu estime que la ville devrait s'inspirer de ses propres opérations de déneigement durant l'hiver, au cours desquelles des remorqueuses sillonnent les rues, afin de déplacer les voitures qui ralentissent les opérations de déneigement. Quelques personnes vont se faire remorquer au début, mais le message va passer, estime M. Rautran. Élection présidentielle en Colombie, la guérilla de l'Armée de libération nationale, ELN, a annoncé hier qu'elle cesserait ses activités militaires le temps de l'élection présidentielle en Colombie afin de permettre à la population de voter tranquillement. L'ELN cessera ses activités militaires du 25 au 29 mai afin de créer les conditions favorables permettant à la société colombienne de s'exprimer lors des élections, a écrit l'ELN sur Twitter. Le premier tour de la présidentielle aura lieu le 27 mai. La dernière guérilla active en Colombie, qui compte quelques 1500 combattants, a repris la semaine dernière son dialogue avec le gouvernement. Le LN dit espérer que le gouvernement répondra par une conduite similaire à cette démonstration d'esprit de conciliation. We'll be right back.
Le toujours très sympathique Damien Robitaille, un extrait de son dernier opus, la pièce « Tout feu, tout flamme ».
À la une du Devoir, Jérusalem, 55 Palestiniens tués dans les manifestations, des manifestations palestiniennes. Des manifestants palestiniens évacuent un homme blessé lors des affrontements lundi avec les forces israéliennes à la frontière de la bande de Gaza. C'est ce que la photo montre. Gaza et Israël s'accusent mutuellement. La communauté internationale et certains pays arabes se font discrets. Et c'est presque un petit miracle que j'ai un devoir en papier entre les mains. Élan de solidarité après l'incendie de Devoir. Les bureaux du quotidien sont évacués après le déclenchement d'un feu sur le toit de son édifice. 71e Festival de Cannes, incursion chez les suprémacistes blancs. Spike Lee, en photo, a fait sa montée des marches lundi. Un soulier noir, un soulier blanc, point brandi, liséré de rouge. L'économie, deux gros producteurs de cannabis unissent leurs forces. Cinéma, la délicieuse irrévérence de Deadpool fait encore mouche. Actualité, crise dans l'équipe de Régis Labeaume, froissé, le bras droit du maire de Québec quitte le parti et demande d'autorisation d'action collective, charmé en utilisant son pouvoir n'est pas une faute, plaide l'avocat de Gilbert Ozon. Une cigarette mal éteinte dans un bac à fleurs serait à l'origine de l'important incendie qui a endommagé l'immeuble qui abrite les bureaux du Devoir rue Berry à Montréal. Dès l'annonce du sinistre, une vague de solidarité a déferlé tandis qu'une dizaine de médias concurrents ont offert d'héberger temporairement l'équipe du quotidien fondée par Henri Bourassa. Tout le personnel est sain et sauf, a confirmé Brian Mize, directeur du quotidien. Je demande à nos lecteurs une certaine indulgence, car en plus d'être déplacés, nous avons dû couvrir notre propre catastrophe, a-t-il ajouté. L'équipe du Devoir s'est retrouvée à la rue après qu'un feu se fût déclaré vers 17h45 sur le toit du bâtiment de 10 étages situé à l'intersection des rues Sainte-Catherine et Berry. Des bouts de terrasse en feu ont été aperçus sur le trottoir après être tombés du toit. La tâche a été de taille pour les pompiers, l'incendie étant de niveau 4 sur une échelle de 5. Les pupitreurs, responsables de la publication papier et numérique, ont été déplacés dans une salle de rédaction de Fortune où ils ont pu compléter ces éditions. Tous les grands médias nous ont offert de nous accueillir. Les options seront analysées mardi, a confié M. Mize. Le premier ministre Philippe Couillard s'est dit d'accord lundi avec la proposition du Parti conservateur du Canada qui suggère d'implanter une déclaration de revenus unique pour les Québécois. Le chef libéral marquait là une volte-face par rapport à la position de son collègue Martin Coiteux qui s'était montré ouvert en 2015 à la possibilité que Québec cède la perception de ses impôts à Ottawa. Philippe Couillard avait alors déclaré qu'il était possible que l'exercice soit confié à Ottawa. Au cours de la même période, le premier ministre avait pris l'engagement de s'entendre avec Ottawa d'ici la fin de son mandat afin que soit confié à Québec le traitement d'une déclaration de revenus unique. Tous les partis d'opposition sont favorables à un tel rapatriement. Ils profitent désormais de l'appui du premier ministre à condition que la perception d'impôts soit administrée au Québec et que le Québec conserve entièrement sa liberté de manœuvre et sa liberté de choix pour ses politiques fiscales. Thank you. Le musée McCord devra renoncer au terrain du quartier des spectacles, persuadé qu'il pourrait déménager dans le quartier des spectacles sur un terrain que lui avait réservé l'administration Coderre à l'angle des rues de Bleury et Président Kennedy. Le musée McCord a dépensé quelque 250 000 $ en études sur le site. Son projet est maintenant compromis car la mairesse Valérie Plante compte plutôt aménager un parc sur le lot convoité. Nous avons été très étonnés que personne ne nous en informe directement, d'autant plus que le terrain nous est officiellement réservé depuis 5 ans par l'administration Coderre, a dit Suzanne Sauvage, présidente et chef de la direction du musée McCord. Charmer une femme en utilisant son pouvoir fait partie de la nature humaine et ne constitue pas une faute, a plaidé lundi matin l'avocat de l'ancien magnat de l'humour, Gilbert Rozon. Les êtres humains, dans un rapport de séduction, utilisent leur beauté, leur charme, leur pouvoir, leur réseau pour montrer qu'ils sont des gens que l'on peut aimer. C'est ça la nature humaine, estime l'avocat du fondateur de Juste pour rire, maître Raymond Doré. Selon lui, la demande d'autorisation d'action collective du regroupement de victimes alléguées du fondateur de Juste pour rire, Les Courageuses, ne devrait pas être autorisée. La cause était entendue lundi matin au Palais de justice de Montréal devant le juge Donald Bisson. Plusieurs victimes sont présentes à l'audience. M. Rozon, quant à lui, est absent en raison du décès de sa mère dans les derniers jours. L'avocat de M. Rozon fait valoir que le groupe d'une vingtaine de femmes tente de donner un caractère collectif à un ensemble d'événements qui sont individuels. Rappelons que Les Courageuses a été créée à la suite des révélations du Devoir et du 98,5 FM à propos d'allégations d'agression sexuelle de la part de Gilbert Rozon sur 9 femmes en octobre 2017. Les Courageuses réclament une somme de plus de 10 millions de dollars en dommages. Jusqu'à présent, elles disent avoir identifié 20 victimes qui ont été agressées ou harcelées sur une période qui s'échelonne sur 3 décennies, soit de 1982 à 2016. Le 8 février dernier, lors de sa première apparition publique suivant les révélations, M. Rozon a nié les gestes qui lui sont reprochés. « Je n'ai jamais fait l'amour à quelqu'un si une personne a dit non. Jamais », avait-il lancé une journaliste de TVA Nouvelles. Ce n'est pas un service public des jardins. Le grand patron Guy Cormier refuse de porter à lui seul la responsabilité de la vitalité des régions. Le Mouvement des jardins, l'Association des banquiers canadiens, la Fédération québécoise des municipalités et l'expert en matière de développement régional et d'occupation du territoire Bruno Jean étaient appelés à discuter avec une poignée d'élus de mesures favorisant l'accès aux services financiers de proximité. Plusieurs assimilent à tort le Mouvement des Jardins, une coopérative de 4,3 millions de membres, à une société d'État comme Poste Canada, estime M. Cormier. Il y a des régions où 50 % de la population fait affaire avec nous. 50 % Alors pourquoi Desjardins doit absolument avoir à maintenir un guichet? Nous, on est là pour nos membres, on n'est pas là pour les citoyens. Merci d'écouter le quotidien des quotidiens. C'est Hélène Denis qui vous accompagne. Restez des nôtres. Après la chanson, il y aura pour vous la revue de presse du Journal de Montréal. Mais choisissez-le pour qu'il nous...
et vos genoux. Que je sois, puisqu'il faut qu'on existe. Le chat du café des artistes. Et si le pain vient à manquer, je serai là.
Madame Gainsbourg, Charlotte qui reprenait Jean-Pierre Ferland, le chat du Café des artistes.
À la une du Journal de Montréal, règlement de compte tiré à bout portant. Êtes-vous à risque? Alerte à la maladie du foie gras. GRC harcelé parce qu'il parlait mal l'anglais. Une maladie silencieuse qui fait de plus en plus de victimes, plus de 20 % des Québécois auraient le foie gras, pouvant causer une cirrhose ou un cancer. Ça va être une vraie épidémie bientôt, craint l'hépatologue Giada Sebastiani du Centre universitaire de santé McGill, le CUSUM. La maladie du foie gras ou la stéatose hépatique non alcoolique est dorénavant la deuxième cause des grèves de foie en Amérique du Nord, et en voie de prendre la tête d'ici 10 ans, soutient la spécialiste. Cette maladie découverte très récemment survient lorsque la graisse compte pour plus de 5 % du foie. Si rien n'est fait, la stéatose hépatique se développe en cirrhose ou en cancer du foie. À ce stade, les chances de survie sont minces sans une greffe. Auparavant, les experts associaient uniquement la stéatose à une consommation excessive d'alcool. Mais ces dernières années, les cas ont explosé chez les personnes en surplus de poids. Elle est la conséquence directe des modes de vie modernes, régime alimentaire non équilibré, riche en sucre et en graisse et manque d'exercice physique, peut-on lire sur le site de la journée internationale dédiée à cette maladie qui sera soulignée pour la première fois le 12 juin. Comme toutes les maladies du foie, elles évoluent lentement. Elles sont sournoises parce que le foie va réagir de façon silencieuse et les gens se retrouvent à 60 ans avec une cirrhose, a dit Marc Bilodeau, hépatologue. La frontière du Québec a vu passer 3,5 fois plus de demandeurs d'asile en avril par rapport à l'an dernier, présage d'un été infernal selon les douaniers. Tout porte à croire qu'on va avoir une crise majeure cet été, déplore le président du syndicat Jean-Pierre Fortin. Les 2479 demandeurs d'asile arrêtés par la Gendarmerie royale du Canada au Québec le mois dernier pourraient n'être que les précurseurs d'un nombre encore plus important à venir cet été selon lui. Seules 672 personnes avaient été similairement interceptées en avril 2017. Ce nombre a explosé l'été venu pour atteindre un sommet de 5530 passages irréguliers en août. Selon le fédéral, la hausse d'avril ne signifie pas que d'autres communautés emboîteront le pas aux Haïtiens et aux Nigérians, même s'il se dit prêt à toute éventualité. Le ministre de l'Immigration, Ahmed Hussein, est justement au Nigeria pour combattre l'information trompeuse sur l'entrée au Canada. Moins de 10 citoyens ont manifesté devant l'Hôtel de Ville de Montréal hier après-midi pour que Valérie Plante annule un contrat entre son administration et un trappeur de coyotes. « Justice pour les animaux et Valérie Plante a du sang sur les mains », ont scandé les manifestants vêtus de masques à l'effigie de coyotes et équipés de fumigènes rouges. On veut que Valérie Plante arrête le contrat avec le trappeur qui va tuer des coyotes dans Montréal et on veut que son parti respecte ses engagements, a critiqué Liliana Danel, une participante à l'événement. Plus de 2500 personnes ont d'ailleurs signé une pétition en ligne qui demande aussi l'annulation de cette entente. Rappelons que ce contrat de 29 228 $ avec un trappeur pour contrôler les coyotes a été conclu à la fin du mois de mars dernier par la Ville de Montréal. On lui reprochait de mal parler anglais. Un francophone unilingue est en cours pour dénoncer que la GRC l'aurait harcelé jusqu'à ce qu'il démissionne. Un francophone vient de remporter une première bataille devant les tribunaux pour faire reconnaître le harcèlement que lui a fait subir la GRC. La police nationale l'aurait même poussé à partir parce qu'il ne maîtrisait pas suffisamment bien l'anglais. « On m'a forcé à démissionner parce que mon anglais n'était pas assez bon. » Je n'ai jamais commis une seule faute professionnelle, s'est insurgé Éric Frémy lors d'une entrevue avec le Journal de Montréal. Anti-démarreur réclamé sur tous les véhicules, moyen efficace pour contrer l'alcool au volant selon les chercheurs. L'Institut national de santé publique du Québec a dévoilé un avis scientifique sur l'utilisation de l'antidémarreur éthylométrique AE qui recommande d'en installer à vie dans les voitures des chauffards dès la première récidive. L'organisme propose aussi de créer des projets pilotes pour installer des éthylomètres dans des flottes de véhicules de transport public et commerciaux. Cette mesure pourrait être étendue à tous les véhicules quand la technologie sera plus accessible. Il s'agit, selon le chercheur, du meilleur moyen pour mettre un terme au fléau de l'alcool au volant sur les routes du Québec. Le chercheur est Étienne Blais, professeur titulaire à l'École de criminologie de l'Université de Montréal. Depuis 20 ans, Québec a tenté en vain de réduire l'alcool au volant. Criminalisation, campagne de sensibilisation, multiplication des barrages routiers, réduction de la limite permise, perte du permis de conduire, taxe sur l'alcool, réduction des heures de vente. Malgré tout cela, le nombre de décès sur les routes du Québec en raison de l'alcool stagne. Au total, 30 % des conducteurs décédés au Québec avaient une alcoolémie supérieure à la limite permise. Christine Moore continue de tout nier. La députée du NPD fait l'objet d'allégations d'inconduite. Madame Moore affirme qu'elle et Glenn Kirkland ont été amoureux en 2013 et que leur relation était consensuelle. Interrogée à savoir si les gens sont trop prompts à désigner un coupable dans les cas de harcèlement sexuel, la députée appelle à vérifier avant de publier ce type d'histoire. Des experts en aviation croient savoir ce qui s'est passé avec le vol MH370 de Malaysia Airlines, disparu sans laisser de traces peu de temps après son décollage de Beijing en mars 2014. Selon un reportage de l'émission 60 Minutes Australia, tous les indices semblent pointer vers le fait que le capitaine de l'appareil, Zahari Ahmad Shah, s'est suicidé en apportant avec lui les 227 passagers 227, donc, et 11 membres de l'équipage dans la mort. Selon CBS News, un expert du groupe d'enquête indépendant a utilisé des données radar militaires pour refaire précisément le trajet de l'appareil. Il a découvert que l'avion a longé les frontières entre la Malaisie et la Thaïlande, une tactique efficace pour éviter délibérément la détection radar.
de son album Emma, c'était Ariane Moffat et la pièce Hôtel Amour.
Dans le Nouvelliste, il a le droit d'avoir sa place un article d'Audrey Tremblay. Depuis sa naissance, les combats de Gabriel et de sa famille se multiplient. Ils ont dû se battre, entre autres, pour de meilleurs soins de santé, pour augmenter l'aide à l'école. Et voilà qu'un autre combat se dessine à l'aube des 18 ans du jeune homme. Gabriel est atteint d'une maladie dégénérative, l'amyotrophie spinale de type 2. Pour avoir de l'aide financière, ses parents, propriétaires d'une entreprise familiale, devront arrêter de permettre à Gabriel d'effectuer des tâches et le garder à la maison parce que tout porte à croire que sa situation ne cadre pas dans les programmes. Une fois de plus, ils sortent les armes pour une bataille où l'enjeu est monétaire. Depuis longtemps, Gabriel se rend au garage de Mécanique Générale, l'entreprise familiale avec sa mère ou son père. Il y va dans un but principal de socialisation, mais effectue aussi quelques tâches, dans la mesure de ses capacités, sans prendre la place d'un employé. S'il continue, selon les indications reçues par ses parents, il se pourrait qu'il ne puisse pas toucher l'argent de l'aide sociale. La famille fait face à un dilemme. Soit il continue de se rendre au garage bénévolement, soit il reste à la maison pour avoir de l'argent. Notre but, c'est de l'intégrer au marché dans les limites de ses capacités, qu'il se sente utile à la société et à la limite à l'entreprise familiale. Il me semble que c'est valorisant autant pour lui que pour nous, a lancé sa mère Karine Thibault. C'est un handicap physique qui touche les muscles, c'est une maladie neuromusculaire. Mentalement, il est tout là. Ce qu'il peut faire au bureau, en s'entend, c'est répondre au téléphone et prendre des rendez-vous. A tenu à spécifier celle qui consacre une grande partie de son temps à prendre soin de ses garçons. C'est là le cœur du problème, selon les premières indications reçues par Karine Thibault. On lui suggère qu'il serait préférable de laisser Gabriel à la maison pour avoir droit à de l'argent. À 18 ans, c'est fini les allocations familiales. On se voit mal être capable de subvenir aux besoins de la famille avec un seul salaire. Il a le droit d'avoir sa place dans la société. Le message qu'on m'envoie actuellement, c'est qu'il ne l'a pas, dénonce-t-elle. Est-ce qu'on veut vraiment les intégrer ou les placer dans des cases pour ne pas qu'ils dérangent? Dit Karine Thibault. Dans ses démarches au centre local d'emploi, on lui aurait indiqué que selon son diagnostic et ses incapacités physiques, Gabriel était considéré trop lourdement handicapé pour avoir droit aux subventions d'intégration au travail. L'autre possibilité, c'était de l'aide sociale pour incapacité de travail, sauf que là, on nous dit que cela suggère qu'il ne peut pas aller au garage carrément. Pas de téléphone, pas de rendez-vous, car pour eux, un inspecteur pourrait considérer cela comme un travail qui doit être rémunéré. Dans un OSBL, par contre, il aurait le droit de faire du bénévolat comme il veut. Mais pour une compagnie privée, c'est non, déplore-t-elle. Il n'a pas droit aux subventions d'intégration au travail, mais à l'aide sociale pour incapacité, oui, s'il reste entre quatre murs à la maison. C'est ça qu'ils me disent. C'est un non-sens. C'est noir ou c'est blanc. Il n'y a pas de milieu. C'est frustrant comme parent. Mais ça l'est aussi pour Gabriel. Karine Thibault s'interroge sur les bonnes intentions d'intégration vantées par la société. Ça se dit bien ça, on veut intégrer tout le monde. Est-ce qu'on veut vraiment les intégrer ou les placer dans des cases pour ne pas qu'ils dérangent? Ils ont le droit à leur petite vie et à leur petit bonheur. Ils ont le droit de sentir qu'ils sont à leur place, qu'ils ont leur place. C'est tellement pas simple avoir une place dans notre société, encore moins dans leur situation, insiste-t-elle. Pour Gabriel, le garage est une place sécurisante qui lui permet de s'accomplir en tant qu'individu, mais aussi dans sa famille. Ça fait du bien de parler avec les gens. J'aide mon père en même temps. Ça amène une complicité père-fils aussi. Tout ça, c'est dommage. Il faut se battre. Encore une autre bataille. C'est décourageant et frustrant, lance le jeune homme qui célébrera bientôt ses 18 ans. Au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, on ne veut pas commenter le dossier de Gabriel précisément. Par ailleurs, on soutient que peu importe la situation, les dossiers font l'objet d'une évaluation cas par cas. On a quand même tenu à mentionner certaines règles générales. Concernant l'aide financière de dernier recours, tout citoyen peut déposer une demande et faire évaluer sa situation et son admissibilité. Le processus, les critères d'admissibilité, ce sont les mêmes pour tous les citoyens, mais tout est évalué au cas par cas, a fait savoir Vincent Breton, porte-parole du ministère. En règle générale, pour une personne seule qui est prestataire du programme d'aide sociale, il y a des exemptions de 200 $ applicables pour un revenu de travail. Pour quelqu'un au programme de solidarité sociale, c'est-à-dire qui a des contraintes sévères à l'emploi, c'est un montant de 100 $. Pour ce qui est des programmes d'aide à l'emploi, le concept est similaire. On reçoit les demandes et on évalue chaque dossier individuellement. Il existe d'ailleurs plusieurs programmes qui s'adressent aux personnes handicapées. C'est le personnel au centre local d'emploi qui offre du soutien à ces personnes-là. Il y a un encadrement qui est fait auprès de ces personnes-là, a mentionné M. Breton. Jean-Sébastien, est-ce que vous savez ce que sont des curds?
Du fromage en crotte?
Oui, comment ça, vous le savez? Mais oui, des curds, C-U-R-D-S. Moi, à un moment donné, je suis allée travailler à Ottawa et puis on parlait du festival de la curd. Là, je me disais, qu'est-ce que c'est que cela? Et quelqu'un est arrivé avec plein de curds et je me dis, oh, que c'est bon!
J'en ai l'eau à la bouche.
Alors, allez voter plutôt que de manger des curds, c'est le titre de l'article de Sylvie Branche dans Le Droit. C'est avec humour que les Franco-Ontariens sont invités à se prévaloir de leur droit de vote le 7 juin prochain. Le commissariat au service en français, CSF de l'Ontario, élection Ontario, et le groupe d'humoristes Improtéine s'allient afin d'inciter les francophones à participer au scrutin lors des prochaines élections provinciales. La première vidéo ludique et humoristique circule sur les réseaux sociaux depuis lundi. Le 7 juin prochain, on a des élections provinciales en Ontario. Puis ça serait le fun que les francophones, on lâche notre sac de curd puis qu'on aille voter, lance d'entrée de jeu Vincent Poirier, dans la capsule vidéo d'un peu plus d'une minute. Les humoristes ottaviens ont inventé bien ça, c'est bien cela, des causes farfelues pour toucher la communauté franco-ontarienne. Il parle entre autres de porter allégeance à l'humoriste Catherine Levac et même de militer pour le droit de manger des pogos en français. Veux pas, inciter les gens à aller voter, ce n'est pas la première fois qu'on essaie de faire ça dans l'histoire du monde. On s'est dit qu'avec notre approche un peu auto-dérisoire et humoristique, que le message passerait peut-être mieux, explique Olivier Nadon, membre du groupe. Son collègue Stéphane Guertin ajoute que le groupe devait inventer des causes afin de ne pas favoriser un parti politique. On a inventé des causes farfelues pour se dégager d'une responsabilité politique parce qu'on ne peut pas. Deux autres capsules seront diffusées sur Internet d'ici le jour du scrutin. Il sera entre autres question de l'importance d'aller voter pour les jeunes et du besoin de personnel francophone pour travailler lors des élections. Journée symbolique et historique à la baie, c'est dans le quotidien Jonathan Hudon. Une rencontre symbolique mais représentative du chemin parcouru depuis quelques années a eu lieu lundi avant midi au pavillon de la baie du CFP du Fjord. L'activité « Une journée trois peuples » avait pour but de souligner le succès de l'expansion du programme « Protection et exploitation des territoires fauniques » PETF dans la communauté Innu de Ouachat-Mac-Mani-Outenam, une réserve amérindienne située près de cette île. Après 3 ans de démarchage, le cours PETF, volet Première Nation, a vu le jour l'automne dernier sur la Côte-Nord. La formation professionnelle de 1320 heures a été adaptée pour le peuple autochtone, mais les mêmes cours y sont dispensés. Le programme devrait diplômer 15 finissants et finissantes au cours des prochaines semaines. Divers métiers reliés à la forêt les attendent à la sortie des bancs d'école. C'est le département international de la Commission scolaire des Rives du Saguenay qui a entrepris les démarches. Son coordonnateur et l'agent de développement international des Premières Nations ont d'abord entrepris de courtes expériences en territoire autochtone il y a 3 ans. Vous écoutez le Canal M de Vues et Voix et c'est l'émission Le quotidien des quotidiens. Hélène Denis avec vous. Restez là pour la suite de l'émission avec les actualités culturelles et les sujets libres.